La revue de presse internationale. Et bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Des informations en provenance du Proche-Orient annoncent un cessez-le-feu conclu dans la nuit entre Israël et le djihad islamique à Gaza.
Oui, une trêve qui semble bien fragile sur le terrain selon ce qu'en disent Jérusalem Post, puisqu'elle devait entrer en vigueur à 4h30 chez nous, 5h30 sur place, mais à 6h, heure locale, les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti côté israélien et des roquettes tirées depuis Gaza ont visé les communautés juives situées à la frontière. Et faut-il s'en étonner ? On ne sort pas en quelques minutes, en quelques paroles, de deux journées d'intenses échanges de feu. Deux jours, rappelle Al Jazeera, depuis qu'Israël a relancé les hostilités dans la bande de Gaza par des frappes aériennes qui ciblaient et qui ont tué Baha Abu Alata, haut responsable du djihad islamique, et sa femme Asma. L'organisation armée palestinienne a ensuite répliqué jusqu'à ce matin donc par des centaines de tirs de roquettes sur le sud et sur le centre d'Israël, roquettes interceptées dans leur immense majorité par le dôme de fer, le système de défense anti-aérienne israélien. Deux jours de guerre, toujours asymétriques plus tard, on dénombre, selon The Middle East Eye, au moins 32 morts côté palestinien, victimes des bombardements israéliens en réplique donc aux roquettes gazaouis. Les derniers morts hier soir étaient 6 membres d'une même famille, parmi lesquels se trouvaient 3 enfants.
Et oui, et quelques heures plus tard, on apprend qu'un cessez-le-feu a été approuvé par les deux parties par l'entremise de l'Égypte, Camille.
Oui, d'après The Times of Israel, le djihad islamique avait dès hier posé 3 conditions à cet arrêt des tirs de roquettes. Qu'Israël cesse ses campagnes d'assassinat de leaders palestiniens comme Baha Abu Alata, dont on vient de parler. Que ses soldats s'engagent à ne plus tirer à vue sur les manifestants gazaouis chaque vendredi près de la ligne de démarcation dans les marches pour le retour des réfugiés. Et qu'enfin, l'État d'Israël tienne les engagements pris lors des précédents accords internationaux du Caire, le premier de ces engagements étant la levée du siège de Gaza. Alors, même si cessez-le-feu il y a ce matin, personne n'imagine vraiment que cette dernière condition ait été acceptée par Tel Aviv. Mais en tout cas, il faudra bien un jour ou l'autre en arriver là, accepter de lever le blocus de Gaza et aider l'économie palestinienne plutôt que de l'éreinter. C'est l'appel lancé par Haaretz dans son éditorial du jour, le journal de gauche israélien qui déplore la situation actuelle comme un piège absurde dans lequel sont englués aussi bien les Israéliens que les Gazaouis, sauf que ceux qui en souffrent principalement, physiquement, économiquement et moralement, ce sont bien les habitants de la bande de Gaza, selon Haaretz. Et l'histoire du Proche-Orient a prouvé que le fait de tuer les leaders terroristes n'affaiblissait en rien la capacité de riposte de leurs organisations. À quoi bon donc mettre un peu plus Gaza à genoux, s'interroge la rédaction d'Haaretz, pour ensuite, au bout de quelques jours et quelques dizaines de morts, consentir une trêve jusqu'au prochain coup de sang. À quoi bon s'interroge également Judah Harry Gross dans l'analyse qu'il livre au Times of Israel. Cela valait-il la peine de mettre la moitié du pays sous la menace de roquettes palestiniennes, de relancer les hostilités simplement pour s'offrir le scalp de Baha Abu Alata ? L'auteur de cette réflexion ne remet pas en cause les informations avancées par l'armée israélienne, selon lesquelles le chef du djihad islamique était l'ordonnateur des dernières attaques contre Israël et en projetait d'autres très prochainement. Il ne remet pas non plus en cause le fait qu'on a voulu envoyer un message à l'Iran qui soutient l'organisation d'Alata à Gaza, mais le coût de cette mort est particulièrement élevé, économiquement, psychologiquement, et ce prix-là, prédit enfin Judah Harry Gross, Israël n'a pas fini de le payer bien au-delà du cessez-le-feu de ce matin.
Et puis aux États-Unis, le premier épisode diffusé hier d'une nouvelle série télévisée à sensation déchaîne les passions dans la presse.
Et je ne parle pas de The Mandalorian, énième avatar de la franchise Star Wars qui a été lancé mardi soir sur la nouvelle plateforme de streaming de Disney. Non, tous les chroniqueurs télé des grands journaux américains reviennent ce matin sur la première audition publique diffusée sur pas moins de 6 chaînes hier de la commission d'enquête parlementaire en vue d'un possible impeachment de Donald Trump. Hier donc, pour la première fois, 2 témoins, en l'occurrence les diplomates William Taylor et George Kent, répondaient aux questions du Congrès, non plus à huis clos, mais devant les caméras et devant tout le pays potentiellement, devant son écran donc pour assister à la mise en accusation du président. Le New York Times nous rappelle l'enjeu. Pour les démocrates, à l'origine de la procédure, il s'agit de rendre ces accusations concrètes pour les citoyens américains, de lever cette critique tenace selon laquelle il ne s'agit là que d'une manœuvre partisane politicienne pour affaiblir Trump. Y sont-ils parvenus hier à faire basculer l'opinion de leur côté ? Sans doute pas complètement, pas dès le premier jour, estime Politico, même si cette journée d'hier a été brutale pour le président des États-Unis, qui voit, selon le site d'info, exposer au grand jour sa diplomatie parallèle et son obsession d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir son rival politique Joe Biden. La lutte engagée entre démocrates et républicains dans cette enquête est inégale. Le camp Trump a montré hier qu'il n'hésiterait à user d'aucun artifice, d'aucune mauvaise foi pour troubler les audiences et troubler les téléspectateurs. Quand, en face, les démocrates, eux, vont devoir trouver rapidement de la matière pour capter et garder l'attention. Le fait est qu'hier, les deux premières audiences de témoins dont on savait plus ou moins déjà ce qu'ils avaient à dire n'ont révélé aucun scoop. Pour cela, il faudra attendre peut-être la semaine prochaine et de nouveaux témoins qui, eux, n'ont pas encore été interrogés par la commission. En attendant, faute de révélations sensationnelles, la plupart des articles de presse sur le sujet ce matin se concentrent sur les détails du show télévisé, le cérémonial, la voix d'un tel, la tenue d'un autre, l'attitude des républicains en particulier. Et The Guardian, depuis Londres, a fait le choix de suivre la retranscription des auditions sur la chaîne conservatrice et pro-Trump Fox News. Et ça vaut le détail. Des présentateurs qui interrompent le duplex pour dénigrer les témoins, pour dire et redire qu'il n'y a rien de nouveau, qu'on s'ennuie et que tout cela coûte cher aux contribuables. Et puis au tout début du direct, quand le président de la commission d'enquête, le démocrate Adam Schiff, pose la première question, voilà ce qu'il se passe sur Fox News.
60 second break, back with questions in one minute.
Mr. Taylor, I would like to begin.
At Humana, we believe your health care should evolve with you.
Eh oui, au moment où le monde entier retient son souffle, écrit The Guardian, le présentateur explique qu'on se retrouve dans une minute après une page de pub. La première réclame vend une assurance santé, la seconde met en scène les marionnettes du Muppet Show. Faut-il y voir un message subliminal? En tout cas, si Fox News avait voulu dissuader ses téléspectateurs de regarder hier, la chaîne ne s'y serait sans doute pas prise autrement.
Merci beaucoup Camille Magnard, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr, il est 7h42.